on est passé carrément d'une mission. La tradition canadienne des casques bleus, où on est reconnu comme gardien de la paix, on est passé à une mission offensive.
Mais vous savez, mademoiselle, que le Canada vous dirait, et ceux qui prennent ces décisions, qu'avant de pouvoir améliorer le sort des Afghans, avant de pouvoir restabiliser ce pays, il faut d'abord combattre les talibans. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour combattre les talibans d'abord, ensuite on réglera les problèmes.
Je me demande si on est en train de combattre les talibans, effectivement. Je me demande si on n'est pas plus en train de sauver des intérêts géostratégiques, économiques. Il faut savoir qu'il y a des intérêts majeurs en Afghanistan, au niveau du pétrole, au niveau du gaz. Et je me demande si les motivations ne sont pas beaucoup plus dans le partenariat canadien avec des compagnies pétrolières pour sauver justement le pipeline transafghan que vraiment les talibans. Et la preuve, c'est qu'on combat les talibans, ils sont revenus en force depuis 5 ans. Vous attendez beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et cette semaine à l'émission, on vous propose un entretien avec le cinéaste Jonathan Beaulieu-Cyr dont le plus récent film Phoenix prend l'affiche ce vendredi 22 août. Bruno Dequin de 24 images a parlé du film avec Jonathan plus tôt cette semaine et c'est cette conversation qu'il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui.
Jonathan Beaulieu-Cyr, bonjour et bienvenue au balado de 24 images. On est très content de te recevoir ici pour parler de ton second long métrage. Donc, on t'avait découvert il y a quelques années avec Mad Dog Labine, un long métrage que tu avais co-réalisé avec Renaud Le Sarre. Et là, tu reviens avec une œuvre ouvertement autobiographique. On en reparlera puisqu'elle est introduite et suivie de cartons très autobiographiques, justement, sur le quotidien d'une famille militaire de Jacques Cartier au début des années 2000, à quelques semaines du départ du père de la famille, Joël, en Afghanistan. Donc, la première question que je voulais te poser, c'est le point de départ du film, pour toi, c'était pourquoi avoir choisi l'avant et non l'après ? Parce qu'on a souvent vu des films sur des militaires qui sont allés au front, qui reviennent, et puis on montre souvent les conséquences du conflit sur eux, etc. Toi, à l'inverse, tu as décidé de faire le film sur les semaines qui précèdent le départ. Est-ce que c'était vraiment ton objectif dès le départ de faire le film sur l'avant, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as travaillé pendant des années avant de décider?
Oui, ben, pendant des années, j'ai écrit beaucoup à ce sujet-là, sous différentes formes d'ailleurs, pas seulement sous une forme scénaristique. C'est une période extrêmement trouble dans ma petite histoire. Puis à travers l'écriture, j'ai essayé de m'expliquer, d'essayer de comprendre. Puis quand j'ai décidé de vouloir en faire un film, j'ai tout de suite, comme beaucoup, j'ai essayé d'émuler, je pense, les autres films que j'avais vus sur le sujet. Donc, j'ai essayé d'écrire sur l'après. J'ai essayé d'écrire sur le retour, sur le syndrome de stress post-traumatique, sur les conséquences d'un déploiement en situation de guerre sur les militaires occidentaux qui reviennent à la maison. Et sur leur famille. Mm-hmm. J'ai essayé d'écrire là-dessus. Puis, c'était pas très lumineux. Puis, c'était très sombre. Ça ressemblait pas exactement à ce que j'avais envie de raconter. J'étais très insatisfait avec ça, en fait. Puis, surtout, ça m'obligeait un peu à passer par le chemin du retour à la maison qui est quand même un outil de propagande important pour l'armée en ce moment. Sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tu sais, on voit beaucoup de militaires qui reviennent à la maison, leurs enfants qui leur sautent dans les bras, la joie, puis l'effusion de joie de retrouver leurs parents. Mmh. Puis c'est comme un truc qui est très populaire là, sur les réseaux sociaux, puis qui, moi, me rend profondément mal à l'aise. Parce que, oui, OK, oui, ça existe. C'est vrai que ça existe. Mmh. Mais on ne montre pas les vidéos de départ qui sont horribles, qui sont déchirants. Donc, j'avais envie de montrer ça, de montrer l'avant. Puis surtout, j'ai eu envie, moi aussi, de revenir à quelque chose qui était plus lointain, parce que le syndrome de stress post-traumatique de mon père, les conséquences que ça a eues sur sa vie, sur la mienne, sur celle des militaires canadiens en général, ça continue de faire partie de mon quotidien.
Mm-hmm.
Mais ces jours-là, où la naïveté était encore là, où je pouvais me dire « Ah, mon père, c'est un soldat, mais il fait pas la guerre, tu sais. » Mon père, il va pas tuer des gens, il va pas participer à des affaires de même, il risque pas sa vie. Ben, c'est loin.
Mm-hmm.
C'est loin, puis je pense que c'est probablement un point de non-retour pour l'armée canadienne.
Et justement, pour, comme tu mentionnes le fait que c'est loin, effectivement, comment ça s'est passé pour toi, le processus d'écriture? Parce que j'imagine que c'est pas si évident que ça. Il y a une part de... Tu t'es nourri de tes souvenirs, mais il y a dû y avoir aussi une part de recherche, une part d'invention, parce que quand je mentionnais le fait qu'il y a une forte teneur autobiographique, n'en reste pas moins que le personnage principal n'a pas ton prénom, il s'appelle Jacob, je ne sais pas quel est le prénom de ton père, les prénoms de ton père ou de ta mère, mais j'imagine peut-être que ce n'est pas les mêmes non plus. Donc il y a toute une part d'invention. Comment ça s'est passé, ce processus d'écriture pour toi?
Ouais, c'est vraiment... Tout est vrai dans le film, mais j'ai juste mis une moustache à mon père.
Mm-hmm.
Puis j'ai fait un peu le même avec tout le reste de... Tout est vrai, mais il y a une moustache ou un chapeau. Mon père s'appelle Danny, ma mère s'appelle Lucie. Ils partagent comme une sonorité. Donc j'ai appelé les personnages Joël et Michel. Le personnage de Jacob, ça ressemble un peu à Jonathan. Donc tu sais, c'est vraiment... Ma mère avait une garderie à la maison. Tout ce qui est... toute la trame narrative de famille de militaires, elle est vraie. Toute la trame narrative de soccer aussi, elle est vraie. Tout est vrai, c'est juste que avec la scénarisation, on peut se permettre de mettre une moustache.
Mais tu étais jeune à l'époque, donc quand tu dis que tout est vrai, je trouve ce qui est intéressant dans le film, c'est... C'est assez rare d'ailleurs, c'est que le film adopte quand même plusieurs points de vue, c'est-à-dire il alterne entre, on va dire, trois points de vue principaux, celui du père, celui de la mère et celui du fils. Alors j'imagine que tu n'avais pas de difficulté à te rappeler très bien, ou en tout cas en partie à travers la mémoire, ton propre point de vue, mais comment justement tu as construit et tu as écrit le point de vue de la mère, le point de vue du père, parce que ça c'est des choses auxquelles tu n'avais pas nécessairement accès à l'époque, là, j'imagine.
Oui, tout à fait. J'ai écrit, surprenamment, je pense que quand on fait dialoguer des personnages, c'est, je recommande l'exercice à tout le monde, de faire dialoguer ses parents, c'est tellement facile. On les a entendus, genre leur vocabulaire, leur syntaxe, leurs intonations sont dans notre tête, sont inscrites dans notre corps, donc... Je pense que ça a été très facile pour moi de décrire le personnage du père et de la mère de mon point de vue. Puis ensuite, d'écrire des scènes où mon père et ma mère sont un peu au centre, puis ils dirigent le regard. Ça a été aussi surprenamment assez intuitif. No spoilers, mais il y a une scène d'intimité entre mon père et ma mère dans le film. Évidemment, une scène auquel j'ai pas assisté. Puis, on dirait que j'étais capable d'imaginer. J'étais capable d'imaginer de quoi ça avait l'air. Après, je l'ai fait pour l'art, là, parce que c'est pas nécessairement... ça peut rendre mal à l'aise un peu d'essayer d'imaginer ses parents dans l'intimité. Mais... ça a été quand même assez facile d'écrire pour eux. Puis plus difficile, en fait, d'écrire pour moi, parce que c'est un point de vue qui change dans le sens où je suis encore un peu cet enfant-là, tu sais, je suis encore un peu cet ado-là. J'ai compris des choses sur moi aussi en écrivant, puis en faisant le film, puis en le montant après. Puis... Donc, le personnage de Jacob... C'est un personnage qui, pour moi, on peut projeter plus de choses sur lui parce qu'il est encore en train de se construire comme personnage.
Est-ce que tes parents, tu les nés au courant du processus au fur et à mesure? Est-ce qu'ils ont un peu collaboré à certains niveaux ou à un petit niveau, tu sais, à ton, à ton travail d'élaboration du film, et puis où est-ce qu'au contraire tu as préféré te mettre dans une bulle et assumer complètement la partie création artistique de la chose?
Ouais, ils ont été au courant que je développais quelque chose là-dessus, mais ils m'ont laissé mon espace, ils m'ont laissé la chance de raconter les choses à ma manière. C'est très niche comme référence. Ben, c'est pas niche du tout, en fait, mais c'est très... Ça va être drôle comme référence, mais dans Gilmore Girls, vers la fin de la série, la fille Rory annonce à sa mère qu'elle veut raconter leur histoire sous une forme de littéraire. Puis elle se rend compte que, waouh, notre vie a été vraiment intéressante, j'ai envie d'écrire, je vais écrire notre histoire. Puis la mère réagit très mal, puis elle voit ça comme une espèce de
bris de confiance.
Ouais, un bris de confiance, mm-hmm. Puis c'est comme sa vie, elle veut pas que ça soit raconté, une espèce de pudeur, tout ça. Puis je me souviens que quand j'ai regardé la série, ça m'avait vraiment troublé, parce que je pense qu'il faut absolument avoir le droit de raconter son histoire, tu sais. Puis je pense qu'il faut le faire dans le respect. J'ai essayé de le faire dans le respect de mes parents, mais j'ai les ai écorchés, surtout mon père, je pense, en faisant ce film-là. Puis
ouais, pourquoi tu dis ça? Je suis curieux. Pourquoi tu dis j'ai écorché mon père?
Parce que j'ai présenté un personnage qui abandonne sa famille pour aller rejoindre une cause complètement discutable. Après, je pense que le film est baigné d'une espèce de lumière puis d'un amour qui rend ça beaucoup plus digeste.
Mm-hmm.
Mais c'est pas parce que ça goûte la cerise que c'est pas un médicament. Fait que je pense que... Ouais. Moi, mon père, je critique dans ce film-là.
Ah oui, je t'avoue que je l'avais pas perçu tant que ça. Je veux dire, notamment parce que ton père, tel qu'il est présenté dans le film, a pas l'air d'être plus motivé qu'il faut, tu sais, à aller en Afghanistan. Je dis pas si ça avait été un personnage qui est totalement possédé, happé par sa vocation, mais c'est pas nécessairement ce que tu représentes dans le film. Je dirais à plusieurs reprises, en fait, ton père a pas l'air ben heureux d'aller en Afghanistan, et puis on a vraiment l'impression qu'il y va. Je pense qu'il y a une phrase dans le film où il mentionne qu'il y va surtout parce que c'est un gars de gang et qu'il a pas envie d'abandonner ses amis qui eux y vont, donc il y va plus pour les amis que pour la cause en tant que telle. Mais
oui, c'est vrai, tout à fait. Puis je pense que ça, pour moi, en tout cas moi je le vis comme ça. Mais tu sais, c'est un film tellement personnel qu'il y a plein de choses que moi je vis sous un certain angle que les gens vont pas nécessairement vivre comme ça, comme toi t'as pas nécessairement vu cet angle-là. Mais c'est tout à fait normal, je pense, quand on fait quelque chose d'aussi autobiographique puis aussi personnel, il y a des choses que moi j'ai vécues dans ce film-là qui pourront jamais être traduites de la même façon pour les autres. C'est un film qui a deux missions. La première, c'est de raconter une histoire qui, je pense, est importante d'être racontée, parce que ça remet en perspective une histoire, une part trouble de notre histoire récente. Puis ça amène de l'eau au moulin de la réflexion de la géopolitique canadienne, de ses conséquences, des décisions parfois, voire souvent discutables qui sont prises. Puis la deuxième mission, c'est un film qui est... C'est une thérapie pour moi, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Ça faisait partie de mes questions. Ce film, c'est une forme de thérapie pour toi.
Oh, ouais, ben oui.
Et c'est... quand tu parles de l'élément géopolitique, justement, on voit à plusieurs reprises que tu intègres dans le film des extraits, des missions de télé, des choses comme ça. Et tu l'as mentionné un peu précédemment dans une de tes réponses là, sur le fait que l'Afghanistan, ça a été quand même un point tournant. Quel a été ce point tournant pour toi? Parce que ton père avait déjà été à l'extérieur avant l'Afghanistan?
Oui.
Et ça, s'était pas passé de la même façon, donc il y a quelque chose qui a été vraiment différent avec l'Afghanistan?
Oui. Le conflit en Afghanistan, c'est la première participation guerrière d'envergure du Canada depuis la guerre de Corée dans les années 50. Donc, tu sais, c'est un demi-siècle d'une espèce de vernis pacifique qui, évidemment, est complètement discutable. Puis l'armée a été instrumentale dans plein de choses, la répression des causes autochtones. Puis on peut pas parler d'une armée pacifique du tout. Là. C'est un oxymore absurde. Mais il y avait un vernis auquel nous, les familles de militaires, on croyait. Puis quand le Canada a annoncé sa participation en Afghanistan, participation, c'est tellement absurde comme mot, mais ça, son engagement ouais, militaire en Afghanistan, ben c'est venu bousculer beaucoup de petites certitudes qu'on avait ici au Canada. Puis ce qui est fabuleux, c'est que ça a été à peu près accepté dans une espèce de mutisme général ici, là, où on ne savait pas en fait comment réagir à ça. Mm-hmm. Donc on s'est à peu près tué. Il y a eu des voix dissidentes, il y en a une dans le film. Une femme, c'est drôle parce que je me souviens très précisément de cette entrevue-là, puis je l'avais écrite de mémoire dans le scénario. Puis quand on l'a retrouvé, l'archive, c'était à peu près les mêmes mots, les mots exacts. Il y avait des voix dissonantes à l'époque qui remettaient en question l'engagement canadien, puis qui disait attendez un petit peu, là, c'est pas... oui, il y a des crises sociales, humanitaires en Afghanistan, mais on peut pas, on va pas se raconter d'histoire. La participation canadienne, elle n'est pas désintéressée. Ça fait partie d'un projet géopolitique plus grand. Puis on va pas là vraiment pour aider la cause des civils afghans. Après, si c'est un gain collatéral, peut-être tant mieux, mais c'est pas ça vraiment l'intérêt du Canada et de Stephen Harper, puis du Parti conservateur, puis il y a quelque chose d'autre derrière ça. Puis nous, les familles de militaires, il y avait quand même cette certitude-là. Moi, je savais, mon père est allé en Bosnie il est allé deux fois, ça a été très dur, il a vécu des choses très difficiles, mais il était casque bleu, au nu. Moi, j'ai jamais eu peur qu'ils reviennent pas. C'était pas une donnée qui était prise en compte. J'étais fils de soldat canadien, ça voulait dire que mon père allait revenir. Il n'y avait aucun doute là-dessus, à moins qu'il y ait un accident de char ou comme n'importe quel accident du monde civil, mais il n'y avait pas de danger relié à sa fonction. Puis l'Afghanistan, ça a été ce chambardement-là pour les familles de militaires, de se dire, OK, ouais, ça se peut que notre père ou notre mère meure au combat, puis qu'ils ne reviennent pas.
Est-ce que ce chambardement, c'est quelque chose que tu penses vous perceviez à l'époque, ou c'est un peu aussi après coup? Parce qu'évidemment, ce film-là, il a été conçu après des années après le retour de ton père, et puis et tout ce que vous avez vécu par la suite, qui sont nommés très brièvement, comme je disais, par un carton à la fin du film, mais je veux dire qu'ils ne sont pas dans le film. Est-ce que c'est le regard rétrospectif qui a teinté ça, ou est-ce que tu considères qu'à l'époque il y avait déjà un peu cette perception là parce que, comme tu le mentionnes, je dirais à l'époque on voyait pas tant la différence majeure nécessairement que ça représentait cet engagement en Afghanistan, surtout qu'on insistait énormément sur l'idée de on va quand même aller sauver la population des talibans, là. Je veux dire, il y avait quand même tout ce discours là qui évidemment maintenant est teinté d'une amertume impossible à effacer, là, mais à l'époque, tu penses vraiment que c'était... tu l'avais ressenti comme ça dans les familles de militaires? Il y avait déjà cette prise de conscience?
Oui, c'était assez clair que ça allait changer. Après, la manière dont j'ai pu construire le scénario, puis l'avantage de la rétrospection, c'est celle d'être capable de peut-être compresser des moments d'ambiguïté qui durent et qu'on ne sait pas trop. Mon père a fait deux déploiements en Afghanistan. Les deux n'étaient pas dans le même contexte. C'était pas la participation canadienne a changé à travers le temps. Il y a eu des périodes beaucoup plus douloureuses que d'autres. Donc, c'est sûr que c'est la réalité à l'époque. Elle était peut-être moins condensable dans une heure et demie de film, mais on n'en était pas moins conscient que ça allait être différent. On ne savait pas comment, ni pourquoi, ni de quelle envergure ça allait être. On ne connaissait pas les impacts psychologiques d'une participation comme ça. On n'avait pas encore toutes ces pistes-là de connaissances, mais on savait que ça allait changer.
Puis pour revenir un peu sur le terrain du cinéma en tant que tel, tu mentionnais le fait qu'au début, tu avais effectivement pensé faire un film sur l'après, puis tu avais regardé d'autres films qui portaient un peu là-dessus, et qu'en bout de ligne, tu as décidé de faire plus quelque chose sur ce qui précède le déploiement. Pour le faire, est-ce que de la même façon que tu avais pensé à quelques films qui évoquaient l'après, tu as eu des points de référence pour travailler sur la forme particulière qu'a pris Phoenix en bout de ligne ? Cette ambiance un peu vaporeuse, ce côté travail sur la mémoire, cette représentation d'un certain milieu à la fois familial, mais aussi plus largement social avec les amis militaires qui entourent ton père, etc. Est-ce que tu avais des films auxquels tu pensais où tu disais « Ah, c'est vrai que j'aimerais faire quelque chose un peu dans ce genre-là »
Ouais. J'ai fait beaucoup de recherches sur les films qui parlent de la guerre. Puis ça a toujours été délicat pour moi de regarder ces films-là, mais j'ai eu envie assez rapidement de faire un film qui traite de la guerre, mais où on n'entend pas de coups de feu, puis où c'est loin quand même, et que on se rend comme dans les dernières, on se rend comme au bout de l'écho que la guerre peut avoir. Tu sais, les familles de militaires canadiens, on n'est pas à l'avant-scène. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir vécu la chose la plus difficile dans toute cette période-là. Moi, je suis vraiment comme au bout de la chaîne de l'écho. Puis il y a des gens qui ont été au cœur de ça, les Afghans en premier lieu. Puis après ça, les militaires canadiens envoyés là-bas. Après ça. Puis là, jusqu'aux enfants de militaires. T'sais. Ma mère, je pense que ça a été beaucoup plus difficile pour elle, beaucoup plus consciente. Elle devait faire beaucoup plus de gymnastique mentale pour accepter la situation. Donc moi, je suis comme au bout de cet écho-là. Puis je trouvais que les films de guerre, évidemment, sont pas intéressés par cette dernière couche-là de l'écho. Donc, je pense que moi, le fait de l'avoir vécu, de rendre ça hyper personnel, ben, ça rendait ça intéressant, en tout cas, je pense, d'un regard extérieur quand j'y pensais. Puis, je pense que le film, de raconter ma famille, ben, ça m'a tout de suite amené à des cinéastes que j'aime, comme Koreeda, qui filme sa famille dans des petits lieux d'une toute autre culture, mais comme on est dans des petits espaces, on est dans une classe ouvrière. Puis c'était du cinéma comme ça, ouais. Je me souviens quand on a parlé, on a essayé de pitcher le projet à une distributrice qui finalement n'a pas accepté le film parce qu'elle me disait « Mais comment tu vas faire pour rendre ça beau? » Tu sais, on n'est pas dans un loft, dans Outremont, on n'est pas dans la nature, on est dans dans des bungalows de banlieue militaire. Puis je pensais tout de suite à Koreeda, tu sais, qui rend des petits espaces tellement intéressants. Puis à Wong Kar-wai, puis je pense à plein de cinéastes du monde asiatique qui m'inspirent beaucoup, qui font partie du cinéma que je consomme beaucoup.
Est-ce que c'est aussi le côté regard mélancolique? Parce qu'il y a quelque chose aussi dans le film qui est assez frappant, puis on le voit pas tant que ça, mine de rien, dans le cinéma québécois, cette approche-là, je veux dire, où tu représentes dans le film beaucoup de scènes qui sont somme toute, ou pourraient être somme toute anodines, je veux dire, hors contexte. Hein, je veux dire, un père qui marche avec son fils pour aller faire un entraînement de soccer, enfin des choses comme ça, tu sais, avec aussi... la plupart du temps, il fait pas mauvais, il fait assez beau, c'est l'été, enfin, il y a quelque chose comme ça. Puis en même temps, je veux dire, le film est perpétuellement teinté justement d'une certaine mélancolie. Donc ça se travaille comment, tu sais, en tant que cinéaste, je veux dire, ça se travaille au niveau du montage, ça se travaille au niveau de des petits détails de direction photo, tu sais, comment on transmet en fait cette émotion là.
Mm-hmm. Ben quand on travaille petit, je pense que il y a une attention aux détails qui devient encore plus importante. Je pense que le grand sujet du film est immense. Géopolitique, guerre. Mais l'histoire est toute petite. On parle de... Ça dure 6 semaines. C'est la relation d'un fils avec son père, sa mère. Puis l'appréhension du départ du père à la guerre qui monte tranquillement au fil des semaines. Puis qui, je pense, atteint un climax, mais on n'est pas dans une recherche de conflit. Le conflit est extérieur à la famille. La famille doit un peu juste essayer de trouver les manières de communiquer ensemble, de se connecter pour répondre à ce conflit-là qui les dépasse. Fait qu'on a des personnages qui peuvent apparaître comme passifs face au conflit de l'histoire. Ça, peut-être, ouais, effectivement, que c'est pas très... C'est assurément une piste de base qui est... Si j'étais conseiller à scénarisation de ce film-là, je me dirais, c'est pas idéal. Parce que t'as des personnages qui sont...
Il n'y a pas assez de rebondissements, il n'y a pas assez de,
ben oui,
de drama.
Mais non, c'est ça. Mes personnages, ils crient, ils hurlent, ils rient, ils pleurent, mais jamais l'un face à l'autre. Ils sont jamais... Il y a des conflits, oui, mais c'est des conflits. Je pense que c'est un film qui est dans la délicatesse. Je pense à Mike Lee aussi beaucoup. Dans ses dynamiques, puis dans sa capacité de raconter quelque chose de tellement intéressant, mais avec presque pas d'événements. Fait que ouais, je pense que c'est un film qui est singulier parce qu'il y a clairement une trame narrative hyper claire. On n'est pas du tout dans l'abstraction au niveau narratif. C'est tout à fait digeste comme narration. Absolument digeste même. Puis l'abstraction est plus au niveau des conflits, puis des enjeux, puis il y en a. Mais après, peut-être que je force pas la note sur comment... Je force pas trop la note, peut-être, sur comment nous, en tant que spectateurs, lire ces conflits-là.
Ben, y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal, dans ce film-là. Puis je me demandais, justement, toi, comment tu travailles avec tes acteurs, que ce soit des acteurs professionnels. Je veux dire, il y a Evelyne Brochu qui joue la mère, Maxime Genois qui joue le père, mais aussi les jeunes qui sont un peu plus non professionnels. Et souvent, oui, il y a beaucoup de scènes intimes, mais il y a aussi des scènes de groupe. Et les cinéastes que tu mentionnais précédemment, je veux dire, Kore-eda, il fait assez régulièrement des scènes de groupe, mais en même temps, ils ont souvent tendance, que ce soit Kore-eda ou Wong Kar-wai, à être très formalistes. Et la différence entre eux, c'est cette tension entre un désir quand même d'une mise en scène assez formelle, mais en même temps la place à certaines formes de dynamique organique de groupe n'est pas toujours évidente. Je suis vraiment curieux de savoir comment tu construis ces scènes-là, tu sais, où ils sont vraiment tous ensemble. À un moment donné, par exemple, un soir, il y a un party où ça se met à faire des blagues. Enfin, on a de multiples personnages qui parlent en même temps. Est-ce que t'es du genre à tout écrire? Est-ce que tu laisses beaucoup de place un peu à l'improvisation pour essayer de capter des petits moments d'authenticité? Comment tu fonctionnes avec les interprètes?
Ben, je suis content que tu poses cette question-là parce que pour moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus dans le cinéma puis dans la forme que je pratique. Parce que, bon, après, là, on vient de parler pendant longtemps de comme les résonances personnelles, la géopolitique, l'histoire, tout ça. Puis oui, tout ça, oui. Mais après, c'est pas un film encore. Puis pour moi, un film, la manière dont moi j'ai envie de le faire, c'est dans une espèce de chaos organique magnifié où on est quand même dans un... Ouais, il y a beaucoup de personnages. Moi, j'adore les scènes où il y a beaucoup de monde. Un de mes films préférés, c'est Rachel Getting Married, de Jonathan Demme. Puis j'adore les scènes de mariage. C'est probablement... un fantasme que j'ai d'en faire dans un prochain film. J'adore les scènes de groupe où on a l'impression que non seulement c'est ambitieux dans la mise en scène, mais en même temps, il y a une part de... Il y a une part d'imprévu.
Mm-hmm.
Il y a une part d'indicible où on a l'impression que ça arrive pour vrai. Puis la manière dont je travaille ça, ben, c'est en partie en faisant en sorte que ça arrive pour vrai. Dans le sens où je pense que je donne beaucoup à mes acteurs, mes actrices. Après, peut-être qu'ils apprécient ou pas, je sais pas.
Tu donnes beaucoup d'informations, tu leur parles beaucoup.
Ouais, je leur donne beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de... d'informations, oui, mais aussi beaucoup de temps. Je leur donne aussi beaucoup de défis, je pense. Je leur dis, par exemple, Alexandre Landry, qui joue dans le film, qui est un comédien extraordinaire avec qui j'avais jamais travaillé. On n'avait pas de relation avant, contrairement à Evelyne, Maxime et d'autres. Alexandre a une scène vers la fin du film qui n'était pas écrite du tout au scénario. Puis je lui ai dit, la journée même du tournage, je lui ai dit, ce soir, tu vas faire ça. Puis ça donne que c'est tout à fait banal là, au final, sa scène, mais ça donne que pour lui, c'était un défi énorme. Puis ça l'a mis toute sa journée dans une démarche. Il était fébrile, puis craintif quand même, mais il acceptait. Il acceptait le défi que je lui donnais, mais c'était difficile pour lui. Puis là, toute sa journée, il était un peu dans sa bulle, puis là, tout le monde venait me voir, puis comme, ah, Alex, es-tu correct? Tu sais. Puis je leur disais pas, je leur disais juste, oh oui, il pense à ses affaires. J'aime ça leur donner des défis. Maxime Genois, sa première scène, ça a été une grosse scène. Ça a été la scène d'intimité avec Evelyne où ils roulent des pièces de monnaie ensemble.
Ouais.
Grosse scène. Normalement, on ne commence pas par une grosse scène pour un comédien comme ça. Mais pour moi, ça fait partie de ça. Ça fait partie de l'imprévu, de l'indicible, du... J'ai pas envie de commencer parfois avec une scène facile. Axel, le jeune qui joue Jacob, j'ai fait commencer par une scène qui finalement était coupée au montage, mais où il devait chanter. Puis il faisait comme un vidéoclip pour lui-même, dans sa tête, dans sa maison. Donc c'était quand même très confrontant. Il fallait qu'il chante en se regardant dans le miroir, puis qu'il fasse des pirouettes. C'était volontaire de ma part. Je me disais, bon, on va tout de suite le lancer « Trial by Fire ».
Mmh.
On va le lancer dans la gueule du dragon.
Et quand tu parles de ces scènes-là, elles étaient quand même écrites. Quand tu parles de justement pour la scène de Landry qui fait bon, on racontera pas forcément la scène, genre, mais cette soirée-là, elle c'était quand même écrit, mais il le savait pas à l'avance. C'est ça.
Lui le savait pas à l'avance qu'il allait avoir ce petit détail-là.
Les autres interprètes le savaient.
Non. Personne ne savait, en fait.
Okay.
Donc, lui, quand il est entré, il fait une petite performance. Là. C'est pas un spoiler, mais il vient et il fait une performance devant tout le monde, tout devant son groupe d'amis. Puis, personne ne savait que ça allait arriver. C'était pas au scénario. Puis, moi, j'avais ça quand même en arrière de la tête. Puis, il y a des petits exemples comme ça où je me disais, ah, OK, ça, je vais le garder un peu. C'est mon petit joker dans ma poche. Puis, je vais le sortir. Puis, des fois, ça crée quelque chose de génial. Des fois, non. Dans Madog Labine, il y avait beaucoup de ça. Parce qu'on a travaillé en impro, on a travaillé en docu-fiction, on a travaillé avec des acteurs non professionnels. Moi, j'aime ça, travailler comme ça. Où, costume, maquillage, des grosses descriptions de personnages. J'écris des grosses bios pour les persos. Puis je donne tout ça à mes comédiens, puis je leur dis « Bon, mais ça y est, maintenant, on est là. » Puis j'ai l'impression qu'après ça, je peux prendre mon actrice ou mon acteur puis l'envoyer au dépanneur puis filmer la scène, puis ça va faire partie du film quand même. Dans le sens où ils portent le personnage, je leur donne une armure, tu sais, je leur donne quelque chose de lourd qu'ils doivent porter. Puis je travaille avec eux, je travaille avec leur casting, je travaille avec leurs limites aussi, leurs peurs. Ça m'intéresse beaucoup, cette partie-là, de travailler avec les comédiens.
Quand tu parles des bios, on a parlé depuis le début du film énormément du trio central. qui est composé de Joël, sa femme Michel, Jacob, le fils. Mais il y a effectivement, comme on a commencé à l'évoquer, tout le milieu militaire et les amis militaires qui entourent Joël. Mais eux sont, somme toute, dans le film tel qu'il est, à peine esquissés, parce qu'ils sont toujours représentés dans une interaction de groupe. Mais donc toi, pour tous ces personnages périphériques, tu construis des biographies pour eux, pour qu'ils soient capables. Donc, par exemple, le groupe d'amis militaires de Joël, tout le monde savait à peu près des détails biographiques de « on se connaît depuis tant », je veux dire, lui, c'est le comique, lui, c'est le... Enfin bref.
Oui, tout à fait. Ouais. Ils connaissaient leur grade, ils connaissaient leur position dans l'armée, dans leur groupe d'amis aussi, dans leur vie sentimentale, dans leur vie familiale. Je leur ai fait une grosse présentation, puis ce que j'aime bien faire, c'est de le faire à la première personne. Donc, j'écris des biographies, mais comme si c'était le personnage qui écrivait sa propre histoire. Donc, je module le langage aussi, forcément, en fonction de qui. Puis, par exemple, le personnage d'Alexandre Landry dans le film, je l'ai imaginé un peu déçu, amer, peut-être des échecs personnels, puis je lui ai écrit toute une bio. Au final, il n'y a rien de tout ça qui est dans le film, sauf la conviction d'Alexandre d'interpréter quelque chose. Puis ça n'a pas de prix pour moi, en tout cas, dans le travail.
Et ces personnages-là, notamment les personnages des militaires, toi, tu les as conçus? Est-ce que t'es allé poser des questions à ton père, par exemple? Parce que, encore une fois, quand on revient sur cette idée de... c'est une chose d'écrire sur les personnes qu'on a réellement connues dans une dynamique intime, là, même si on imagine toujours un peu, mais il y a quand même, bon, écrire ton avatar, tes parents, etc., c'est une chose, mais écrire la dynamique du groupe professionnel, entre guillemets, là, c'est moins évident, mine de rien.
Ça aurait pu être moins évident si j'avais pas eu le fardeau ou le privilège d'être l'aîné. Je suis probablement le fils aîné de cette génération-là, tu sais, du moins à Valcartier, dans un groupe, un certain groupe de soldats, dans le sens où mon père m'a eu à 20 ans. Donc, quand j'avais 13 ans, il avait 33 ans, il était au sommet, disons, de sa carrière, là. Moi, j'étais le plus vieux, toujours. Ma mère gardait les enfants des autres. Moi, j'aidais ma mère à garder les enfants. Donc, tu sais, j'ai changé les couches des enfants de militaires. Puis, j'étais comme ce personnage-là de Jacob, un peu coincé entre deux âges, qui est beaucoup trop vieux pour être un enfant, puis qui est beau. On le sait qu'il écoute. Mais en même temps, c'est le seul enfant dans la salle qui comprend ce qu'on dit. Donc, on se censure moins. On ne se censure peut-être pas du tout. Puis moi, j'écoute. Puis fait que j'écoutais les adultes, je voyais ça. Mon père a un pool de hockey avec ses amis militaires qu'il fait à chaque année. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'il y avait un militaire qui était déployé à l'étranger, fait qu'il ne pouvait pas faire sa sélection. Puis fait que moi, j'ai été invité à faire la sélection à la place du militaire. Donc j'arrivais dans un groupe d'une quinzaine d'hommes de 30 ans, 35 ans, qui militaire en groupe tout seul. Puis moi, j'étais là, j'avais comme 14 ans. Puis... Fait que j'ai vécu tout ça, je l'ai vécu de proche, donc tu sais, je les connais dans toutes leurs ramifications, dans quel genre de joke ils font, quel genre de... Je sais aussi que c'est des... Pour la plupart, c'est des pères de famille aimants. Je sais qu'ils parlent jamais de politique ensemble. Je sais que ils remettent jamais sans doute. Je sais que c'est sans limite leur générosité les uns face aux autres. Mais je sais aussi qu'ils ont des parts d'ombre. Puis que si un soldat prend une décision pour lui-même, c'est comme si tous les autres en étaient responsables. Donc, dans le film, il y a un militaire qui décide de s'acheter un bateau. Ça y tend. Il a le droit. Mais ça crée une situation de conflit parce que les autres ne sont pas d'accord, ils ne pensent pas qu'ils devraient s'acheter un bateau. Puis au lieu d'être un groupe d'amis normal, si c'était pas des militaires, ça se résorberait en 30 secondes. On parlerait dans son dos, puis on dirait, mon Dieu, il s'est endetté pour s'acheter un bateau, il est niaiseux. Mais on n'en ferait pas tout un plat. Mais pour eux, le fait qu'ils s'endettent, c'est comme si eux s'endettaient eux-mêmes, c'est comme si ça venait les chercher eux dans leur corps, dans leur sang. Puis ils se sentent responsables pour des choses qu'ils ne devraient pas parfois.
Peut-être aussi parce qu'il y a toute cette... c'est accentué par ces biographies que tu as conçues. Là. Parce que justement, quand tu mentionnais le personnage d'Alexandre Landry, puis que tu lui avais construit toute une certaine forme d'amertume à certains niveaux, je dirais, il y a aussi quelque chose dans la construction narrative du film qui amène à cette scène-là, parce qu'on le voit à plusieurs reprises, qui s'inquiète d'un point de vue financier. Donc forcément, je veux dire, de voir... Un de ses collègues qui dépense sans compter, ça va le faire exploser, pas de la bonne façon, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était quand même un petit peu en train de bouillir depuis à peu près le début du film.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, tous mes personnages ont beaucoup de matériel avec lequel travailler. Les comédiens et les comédiennes, je pense, ils ont beaucoup de matière. Puis ça crée, je pense, en tout cas, ce que moi, j'identifie comme étant la force du film, disons. Je pense que le film, sa grande force, selon moi, c'est la capacité de donner à voir des personnages extrêmement développés, même s'ils ne nous en donnent pas autant que... Ils nous en donnent peu et pourtant, ils nous semblent tout à fait développés et crédibles et profonds.
Si on revient sur le rapport aussi que tu avais mentionné, le film étant une certaine forme aussi, en partie, de thérapie. Qu'est-ce que ce film-là t'a permis de, peut-être pas nécessairement régler, mais de réfléchir par rapport à ton rapport avec ton père, qui est quand même assez complexe. Et puis notamment, on voit dans le film que le père tente de faire énormément d'efforts et pour être parfois surprésent, et que le personnage de Jacob le prend pas forcément très très bien, et qu'il y a un peu cette idée du père qui essaie de compenser ses absences par une présence très très papa père poule, mais peut-être un petit peu trop. Puis je suis curieux de savoir, c'était toi, comment tu le percevais à l'époque versus comment tu le perçois maintenant. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué, tu sais, au fur et à mesure de l'écriture du film?
Oui. Mon père, à la fin du premier visionnement du film, sa première réaction, ça a été de demander à ma mère, « Suis-tu aussi niaiseux que ça? » Puis ma mère de lui répondre oui, en riant. Mm-hmm. Mais ensuite, mon père, il m'a dit... Il m'a fait une critique qui est probablement la plus belle critique qu'on m'a jamais fait de n'importe quoi que j'ai fait dans ma vie. Il m'a dit Joe, j'aime ça. On dirait que dans le film, même les figurants, puis par figurants, il voulait dire des personnages secondaires, ils ont comme tout un moment. Ils ont tous des moments où ils sont comme là, puis tu leur donnes la chance de se faire valoir, puis tu leur donnes la chance d'avoir une scène. Puis. Je l'entendais comme quasiment rajouter, genre, tu sais, esprit d'équipe, Jonathan, c'est important. Mm. Puis pour moi, c'est que ça qui... Ben oui, tu sais, mon père, malgré tout, il m'a enseigné des choses, puis je les conserve. Celle de l'esprit d'équipe, celle de l'engagement envers des causes qui me semblent importantes à moi. La cause de mon père, ça n'a jamais été l'armée, ça n'a jamais été le gouvernement, ça n'a jamais été le... Ça a été ses amis, ça a été sa famille, ça a été son noyau de soldats, militaires, ça a été la loyauté envers ses collègues, ses amis. Ça a été ça, son engagement. Moi, le mien, je le fais un peu de la même façon, avec mes collègues, avec les gens de mon milieu, avec l'enseignement aussi. J'ai commencé à enseigner le cinéma à l'Université Laval. Je le fais dans un esprit de passation, d'engagement, de collectivité aussi. Matt Doglabin et Phoenix, c'est des films qui ont été faits avec énormément de participation citoyenne. Que ce soit les gens de la région du Pontiac dans Matt Doglabin ou les gens de la communauté des familles de militaires dans Phoenix. Il y avait pour moi, c'est important de faire ça. Pour moi, les films, c'est une manière de se rassembler. C'est une manière de participer à un événement qui est un peu carnavalesque, complètement absurde. C'est un bris de la réalité, de se réunir ensemble, puis de dire silence, puis de dire action. C'est complètement absurde. Mais c'est une activité qui est pour moi socialement extrêmement importante. Puis je pense que mon père, j'ai gardé ça de sa part, ouais. L'engagement, puis la collectivité.
Écoute, Jonathan, merci encore d'être venu au balado. Je pense que c'est une bonne phrase pour terminer cet entretien. Et puis, on espère que pas mal de gens vont aller voir effectivement Phoenix, regarder les horaires. Je veux dire, c'est un film qui a peut-être pas la distribution, tu sais, qui at large d'une grosse comédie québécoise de l'été, là, je veux dire, mais ouais, il va jouer dans pas mal de salles, là, donc
oui, c'est ça, 38 ne le ratez cinéma, pas. Quand même, 38 cinémas au Québec, je suis quand même vraiment content. Je pense que c'est un film qui peut toucher les gens à l'extérieur des grands centres, puis dans leur réalité, en région, en banlieue.
Tout à fait d'accord avec toi. Merci encore.
Merci.
C'était le cinéaste Jonathan Beaulieu-Cyr et Bruno Dequin de 24 images au sujet de Phoenix qui prend donc l'affiche ce vendredi. Merci d'avoir écouté le balado de 24 images cette semaine encore. Si vous n'êtes pas déjà abonné au balado, n'hésitez pas à le faire sur votre plateforme ou votre application de balado diffusion préférée. C'est évidemment toujours très apprécié. Et que vous le fassiez ou non, on se dit à dans deux semaines pour le prochain épisode du balado. D'ici là, merci beaucoup et bon cinéma.
Il a vraiment l'air con.
Ah non, je suis pas con, hein. Je suis invincible.
Pourquoi ils vous font courir jusqu'à temps que vous ayez plus de poids en dessous des pieds? Alors, ça sert à quoi?
L'armée Jacob, ça. Ça sert à faire ses preuves.
Les preuves de quoi? La seule chose que ça prouve, c'est que si tu cours 15 km avec un hostie de gros sac sur le dos, ben t'es plus capable de marcher pendant 3 jours. C'est cave.
Non, c'est pas cave, c'est de même que c'est fait, c'est tout.
Ça sert à quoi de se blesser pour vrai si c'est juste une pratique? Pense-y.
Ouais, mais... Toi, arrête de penser un peu.